BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h passé de 32 minutes, on est un peu en retard, mais c'est le nouvel horaire des experts aujourd'hui, désormais tous les jours sur BFM Business, 9h30, 10h30, on est ensemble pour une heure de débat et de controverses. C'est parti, alors que le monde tangle, les ministres du commerce du G7 se retrouvent aujourd'hui et demain à Paris pour discuter surcapacité industrielle, minerais critiques et petit colis, mais pas de droits de douane, alors que Washington agite à nouveau la menace de nouvelles taxes sur les véhicules européens. Alors qu'attendre de cette réunion? Et puis plus largement, quelles sont les priorités économiques de la France pour ce G7 sous présidence française? Comment prépare-t-on un tel sommet? On va en parler en début d'émission. On a notamment la chef économiste du Trésor, Dorothée Rosé, qui est au cœur de l'organisation et qui est avec nous aujourd'hui. Ça va être passionnant. Et puis, on viendra aussi sur la dernière lettre du gouverneur de la Banque de France au président de la République. François Villeroy de Galleau quittera l'institution de la rue de la Banque au mois de juin. François Villeroy de Galleau qui n'y va pas par quatre chemins. Je le cite, si notre pays poursuit ses choix gérontocratiques, oui, gérontocratiques, il ne pourra pas bien préparer l'avenir. On en parlera avec mes experts, ce sera le deuxième thème du jour. Et puis enfin, les pétroliers font-ils des profits excessifs? Emmanuel Macron a durci le ton hier contre les compagnies pétrolières. Les Européens devront réagir si des profits excessifs ou des comportements prédateurs étaient constatés. On va voir ce qu'en pensent mes experts du jour. Il est 9h passé de 33 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée Rosé. Je le disais en introduction, bonjour Dorothée, chef économiste de la Direction Générale du Trésor, au cœur des discussions du G7 Finance, du G7 Commerce, bien sûr. À vos côtés, Anthony Morlaix, Lavidali. Bonjour Anthony, bonjour. Économiste chez Rex et Code. Et face à vous, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas, fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Astérès. Quelle priorité économique pour le G7 sous présidence française? Je le disais, les ministres du commerce du G7 se retrouvent aujourd'hui et demain à Paris pour discuter surcapacité industrielle, minerais critiques et petits colis. Mais pas de droits de douane, Dorothée Rosé, pas de droits de douane, alors même que Donald Trump a à nouveau menacé les Européens et les Allemands plus particulièrement de 25% supplémentaires sur les automobiles. Quels sont les enjeux pour commencer de la réunion de ce jour-là à Paris?
Oui, alors peut-être rappeler déjà, donc le G7, c'est un groupe de coordination ou de coopération entre sept grandes économies.
Commençons par les
années 70. Donc il y a la France qui assure la présidence cette année. La présidence tourne chaque année entre les pays. L'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon, ainsi que l'Union européenne également en tant que telle. Et donc chaque année, quelque part, la présidence définit les priorités, qui sont plus des sujets structurels ou de fond,
oui.
Qui sont travaillés par des groupes techniques, ensuite par les suppléants des ministres et je dirais dans chaque filière du G7, finance, commerce, intérieur, environnement, etc. Ça culmine par des réunions ministérielles et ensuite par le sommet des chefs d'État qui aura lieu au mois de juin. Donc en fait, on travaille un petit peu en remontant la chaîne, je dirais, du niveau technique au niveau très politique pour à la fois partager des informations, des analyses, des expériences et trouver des réponses coordonnées au sujet qu'on a en commun, là, dans le domaine commercial. On a aussi des discussions sur les crises, notamment alors en filière finance, évidemment la crise au Moyen-Orient, et évidemment oui. L'Ukraine, évidemment le Liban, enfin, donc les priorités urgentes au fil de l'année, on en parle évidemment aussi. En revanche, c'est pas vraiment une instance de négociation bilatérale, c'est-à-dire c'est pas autour de la table du G7 que l'Union européenne va négocier avec les États-Unis ou parler de ces différends. Évidemment, pendant que les représentants sont là, ils se parlent aussi en marge. Enfin, il y a aussi des rencontres entre ministres.
Évidemment.
En marge, mais on va quelque part pas faire notre négociation avec les Américains, avec les Canadiens et les Japonais dans la salle, etc. Donc c'est pas exactement cette instance-là. Par contre, c'est aussi l'occasion pour tout le monde de se parler,
Donc une instance de dialogue, de réflexion. On se nourrit les uns les autres. Anthony, Morlaix, Lavidali. Je le disais, hein, aujourd'hui, c'est un G7. Il y a deux piliers. Faut peut-être qu'on explique ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un pilier G7 commerce, en termes de questions économiques, hein. Il y a le G7 commerce et le G7 finance, qui sont les deux couloirs de discussion, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est un G7 commerce. Quels sont les enjeux de cette réunion ?
Ce qui est très frappant, c'est qu'on va parler évidemment des déséquilibres mondiaux. Je crois que c'est un peu la grande thématique. Avec cette idée de surcapacité industrielle qu'on a à l'échelle mondiale, un peu dans, au fond, alors qu'ils sont très localisés en Asie, mais qu'on retrouve un peu partout. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que il y a un petit peu un paradoxe ou une schizophrénie entre à la fois l'idée de vouloir lutter contre des surcapacités industrielles et en même temps tous les pays veulent réindustrialiser. Enfin, réindustrialiser, c'est rajouter des surcapacités aux surcapacités. Donc ça, c'est quand même une grande problématique, c'est de se dire, est-ce qu'on est en fait ce qu'on demande, hein, c'est que certains pays abandonnent pour partie des capacités industrielles, a fortiori l'Asie, ce qu'ils sont absolument pas prêts à faire, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu en plus une arme de rétorsion commerciale et même de négociations diplomatiques. Et nous, on aimerait retrouver un peu de souveraineté, enfin, parce que c'est un petit peu le mot à la mode, et de sécurité économique, ça revient aussi dans le verbatim. Et c'est toute la difficulté. C'est est-ce qu'on est en capacité, en réalité, de revenir faire fleurir sur le territoire européen, et pas dans tous les pays, parce qu'on a certains pays comme l'Allemagne qui sont déjà en surcapacité, enfin, au fond. Donc, on a des pays qui nous-mêmes sont concernés. Et quand on parle aussi de déséquilibre, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'Europe contribue aux déséquilibres mondiaux. On est en excédent d'épargne, alors qu'il faut prendre la zone euro dans son ensemble, pas la France. Mais la zone euro dégage un excédent courant absolument gigantesque. Donc on pourrait nous-mêmes, en quelque sorte, faire une partie du travail en stimulant davantage la demande européenne. Très souvent, on se dit qu'on est dans des régimes de basse croissance, on a des marges de manœuvre, alors elles sont localisées dans certains pays, et malheureusement pas chez nous. Mais probablement, on pourrait faire une partie du travail. C'est-à-dire, quand on demande aux autres de faire des efforts, la zone euro pourrait aussi regarder en son sein ce qui est capable
C'est bien le but. Hein.
Voilà.
C'est
bien, et les Pays-Bas, par exemple, faudrait arriver à
Mais faire des efforts, pour ceux qui nous écoutent, et qu'on explique bien ce que ça veut dire, Nicolas Bouzou, faire des efforts, ça voudrait dire quoi ? C'est réorienter les flux d'investissement qui partent à l'étranger pour investir davantage chez nous, c'est ça ?
Oui, ça veut sans doute dire quelque chose comme ça, mais je pense que c'est pas clair en réalité, que derrière toutes ces notions, en effet, de surcapacité, de déséquilibre, etc. En fait, ça fait, enfin, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, ça fait 25 ans, et ces problèmes sont toujours les mêmes, et on essaie toujours de les traiter dans le cadre des instances comme le G7.
Oui.
Néanmoins, je pense que c'est très important quand même, hein, d'avoir ce type de structure de coordination, surtout à un moment où le multilatéralisme a un peu volé en éclats. Je pense que c'est forcément positif, et le G7 sans doute plus que le G20.
En fait, c'est un peu mort, non, le G20.
En tout cas, les témoignages, quand vous écoutez, moi, j'ai beaucoup parlé, Dorothée connaît ça de l'intérieur, mais moi, je vois ça de l'extérieur, mais j'ai beaucoup, je parle toujours avec les ambassadeurs, en fait, qui sont les ambassadeurs du pays qui reçoivent le G20, et tous me disent que, enfin, c'est devenu quelque chose, mais d'un ennui qu'on peine absolument à imaginer.
Oui.
Donc le
pouvoir
le G7 et les verticales du G7 sont sans doute plus adaptées. Après, ce que je voudrais dire quand même peut-être aussi pour donner le cadre, c'est que on va assez peu parler a priori des questions commerciales, mais c'est d'une certaine façon une bonne nouvelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le Liberation Day a eu lieu donc il y a un petit peu plus d'un an, et il n'y a pas eu de guerre commerciale. Moi, j'étais très impressionné là par la lecture d'un livre d'un économiste qui s'appelle Richard Baldwin, qui est un spécialiste du commerce international, et qui explique là dans son livre qui vient de sortir deux choses que je trouve tout à fait passionnantes. Première chose, c'est que il explique bien que les Américains ont déclenché une guerre commerciale, mais en fait il n'y a pas eu de guerre commerciale en raison de la réaction des acteurs. Les Chinois ont adopté la stratégie du fort au fort.
Ont montré des muscles.
Et ce sont les Chinois qui ont gagné, les Américains qui ont perdu, schématiquement. Les autres, c'est-à-dire les Européens, Canadiens, Britanniques, ont plutôt fait profil bas. Et ils ont eu raison parce que d'une certaine façon, ils ont gagné aussi. C'est-à-dire que ça a réussi à calmer.
Ils ont eu les taux les plus faibles.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais le Royaume-Uni, à peu près pareil. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand même très intéressant de cette remarque. La deuxième chose que remarque Baldwin, c'est que Certes, le multilatéralisme a éclaté, provisoirement, à mon avis, mais en fait, il y a eu une multiplication des accords régionaux. Et aujourd'hui, beaucoup de pays, regardez le Canada par exemple, beaucoup de pays cherchent à renforcer leurs relations économiques, commerciales surtout, mais pas seulement, avec des accords régionaux. Et Baldwin explique que c'est pas si idiot que ça, en fait, parce que ces accords régionaux, ils peuvent donner le sentiment d'un désordre général, parce qu'on n'a plus l'organisation
et d'une
mondiale,
fragmentation
du commerce,
du monde, hein, d'une
mais forme en fait, ils sont assez efficaces et ils ont des forces d'attraction qui sont importantes, si bien que il n'y a pas eu de guerre commerciale depuis un an, il n'y a pas eu véritablement de démondialisation non plus. Quand on regarde les flux commerciaux,
ils ont augmenté, hein.
Alors ils empruntent, ils sont plus coûteux. Ils empruntent des chemins différents, plus longs, plus compliqués, les routes. Alors, c'est pas que le protectionnisme, c'est aussi, bien évidemment, la crise géopolitique. Mais en fait, on voit plutôt une augmentation du coût de la mondialisation qu'une démondialisation. Tout ça pour dire que on a eu le protectionnisme, on a deux fronts, en Russie, Ukraine et Proche et Moyen-Orient. Ben finalement, la mondialisation, elle est toujours là, et le commerce international est toujours là, dans un mode dégradé. Mais il est toujours là.
Oui, puis qui augmente, encore une fois, oui, vu les chiffres de 2025, hein, Dorothée Rousé, corrigez-moi si je me trompe, mais les échanges internationaux ont progressé en valeur beaucoup, en volume aussi pas mal, en dépit de la guerre
commerciale. Oui, alors il y a eu plein d'effets assez spécifiques. Au début de l'année, il y a eu toutes les effets d'anticipation avant les droits de douane. Donc il y a beaucoup d'échanges et de stockage au premier trimestre 2025. Ensuite, il y a eu tout le commerce lié à l'IA, en fait, de tous les produits liés à l'IA qui a complètement boosté le commerce international l'année dernière. Et puis, bah, il y a des pays émergents qui sont toujours en croissance, donc qui continuent d'importer. Enfin voilà, il se passe toujours des choses dans le monde, même quand Trump impose des droits de douane. Effectivement. Ensuite, pour revenir aux sujets qui sont en fait les sujets aujourd'hui de coopération pour lesquels ça marche et c'est pertinent de se parler en G7 et qui vont être les sujets, la lutte contre les surcapacités industrielles. Alors c'est pas, enfin pour moi je dirais pas la Chine est en surcapacité, l'Allemagne est en surcapacité parce que les deux ont un excédent. Là l'idée c'est de regarder les pratiques déloyales, les pratiques qui sont non marchandes. Et comment coordonner, enfin comment à la fois les identifier, les mesurer, coordonner nos réponses.
Je vous coupe, Dorothée, je voudrais qu'on comprenne, ouais. Moi je suis désolé, hein, la lutte contre les surcapacités industrielles, je pense que personne ne comprend
alors,
ce que ça veut
si
dire.
Si je donne un exemple
en
concret,
réalité.
La Chine produit plus d'acier que l'ensemble de la demande mondiale en acier. Si c'est régi par les lois
uniquement
du marché,
uniquement la Chine, hein, qui n'est
si
pas
c'est régi par les lois du marché, ça marche pas. On peut pas, enfin ça ne peut pas être le cas. Donc ce qu'on appelle les surcapacités industrielles, effectivement, hein, c'est pas clair et c'est pas un terme que la Chine accepte non plus. C'est la combinaison, je dirais, d'une offre surabondante sur le marché qui crée des risques non seulement industriels mais aussi de sécurité pour les autres pays. Hein, quand on domine plus de la moitié de la production mondiale d'un bien, oui. On a quand même des leviers de coercition sur les autres pays dont on voit qu'ils marchent. Et qui sont soutenus par des pratiques non marchandes. Alors, on parle beaucoup de subventions, mais c'est aussi le coût du capital pas cher qui est facilité par la répression financière en Chine, le fait d'avoir du foncier quasi gratuit. Voilà, c'est tout un ensemble de systèmes. Mais c'est pas du tout facile de mesurer, en fait, quelles sont ces pratiques. L'OCDE fait d'ailleurs un travail remarquable pour essayer de mesurer un peu dans tous les différents domaines quels sont tous les avantages dont bénéficient les firmes dans certains secteurs et les pays. Donc de les identifier, de les mesurer et de coordonner notre réponse. Donc il y a cet aspect-là. De même sur les petits colis, on a tous le sujet des petits colis qui explosent avec des enjeux de protection du consommateur,
c'est au sujet de la réunion aujourd'hui,
etc. C'est relativement nouveau pour tout le monde. Donc ne serait-ce que partager les informations, les questions opérationnelles, la coopération entre nos douanes, c'est des sujets utiles. Et puis sur les sujets qu'on appelle de sécurité économique, qui veulent dire
sur les minerais critiques, hein,
là où on est vulnérable, et notamment sur les minerais critiques, comment trouver des solutions ensemble, parce que ça a aussi beaucoup de sens de dire essayons de trouver une réponse coordonnée, d'avoir des pratiques communes entre nous, de développer des partenariats avec d'autres pays pour diversifier nos sources, de réfléchir à davantage investir, raffiner, recycler chez nous, mais dans une sorte de club de pays qui se font confiance et qui vont faire ça ensemble plutôt que d'essayer chacun d'avoir tous nos minerais dans notre propre économie. Là aussi, c'est un vrai sujet de coopération sur lequel il y a une vraie valeur à se parler. À
oui, mais en même temps, ils sont très demandeurs de ça. Hein.
Ce club de confiance, ils sont aussi concurrents, hein, je veux dire, les membres du G7, les uns contre les autres.
Oui, mais justement,
comment on fait dans ces cas-là?
Justement, en fait, si on laisse juste la concurrence entre nous, on va tous perdre.
Ouais.
En gros. c'est qu'on va tous perdre, on va tous chercher à s'approvisionner un peu à la va-vite, à n'importe quel prix, on payera tous plus cher et on ne sera pas plus en sécurité.
Et cette coordination, elle fonctionne aujourd'hui ?
Elle avance pas mal.
Un peu. Ouais. Il y a des pays qui sont très demandeurs. Regardez, il se trouve que j'ai une petite activité au Canada, je connais bien le Canada. C'est un pays qui est incroyablement demandeur de relations avec le Royaume-Uni et avec l'Union européenne.
Et le Premier ministre canadien était invité d'ailleurs, aujourd'hui à
l'économiste, c'est un banquier central, il a une vision extrêmement précise de tous ces sujets-là et il voit bien que dans le domaine commercial mais pas seulement, dans le domaine militaire par exemple, mais aussi dans le domaine en effet des minerais critiques. Le Canada a beaucoup d'hydrocarbures. Le nord du Canada, c'est des hydrocarbures et du pétrole. Hein. Bon, ils savent très bien que nous, en Europe, en réalité, dans notre sous-sol, ça commence à se savoir, parce que la Commission européenne, d'ailleurs, fait un bon travail à ce niveau-là, mais on a beaucoup, nous, de minerais critiques. C'est un sujet absolument majeur pour nous de les extraire et de les raffiner.
Voilà, c'est ça,
oui.
Oui,
mais bon, je trouve vraiment que l'Union européenne, pour le coup, fait un très... On avance bien sur ce sujet. Les Canadiens, ils voient parfaitement clair là-dessus, vous voyez. Mais le Royaume-Uni, pareil. Rendez-vous compte qu'en ce moment, j'élargis un tout petit peu par rapport aux G7, mais pas complètement. Les Britanniques, le Parlement britannique en ce moment, ils sont en train de faire passer des lois pour que le Parlement puisse intégrer les directives de l'Union européenne de façon quasiment automatique. Vous vous rendez compte de ça ?
Vive le Brexit, hein.
Non. Mais c'est-à-dire que, en fait, si j'étais un Brexiteur, en réalité, c'est une soumission à l'Union européenne plus importante que quand le Royaume-Uni était à l'intérieur de l'Union européenne, parce que là, ils n'auront pas leur mot à dire sur les directives.
Ouais.
Mais donc, ils sont en train de demander à leurs parlementaires.
Ouais.
Oui, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, en fait, l'isolationniste américain et le fait qu'il est difficile de discuter avec la Chine parce que les surcapacités chinoises, en fait, c'est avéré. Le FMI nous dit les subventions à l'économie chinoise, ça représente 10% du PIB chinois. Bon, c'est juste gigantesque. Mais en effet, c'est un sujet dont on ne peut pas parler avec les Chinois. Ils ne veulent pas parler de... Donc, on a des incitations extrêmement fortes à la coopération entre pays avec lesquels, alors certes, il y a de la concurrence, etc. Bien sûr, mais enfin, vous voyez, Canada, Royaume-Uni, Union européenne, l'incitation à la coopération, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui.
Là, on est sur le volet commercial. Je voulais qu'on parle du volet finance aussi, Dorothée Rouzet. Il y a trois priorités françaises pour le G7 finance. C'est un peu des exercices classiques. Hein. C'est réduire les déséquilibres macroéconomiques, renforcer la sécurité économique, soutenir une croissance équilibrée, durable et préservant la stabilité financière. Quels sont précisément les objectifs de la France sur le volet financier ?
Alors, donc, effectivement, il y a trois grandes priorités. Donc, ça peut paraître un peu éthéré de dire, alors Anthony a commencé à en parler, voilà, de dire on veut réduire les déséquilibres macroéconomiques.
Ouais.
En fait, il y a un côté...
C'est Sisyphe, quoi.
Voilà.
En tout cas, hein, moi, ça fait 20 ans que j'entends la même chose.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle les déséquilibres macroéconomiques ? C'est que le fait qu'on a... Il y a des positions extérieures qui divergent de plus en plus. Donc, ça, c'est pas sans lien avec ce dont on vient de parler.
Les positions extérieures.
C'est-à-dire, les États-Unis sont en déficit commercial et déficit courant qui persiste. La Chine est en excédent qui persiste. Et la zone euro est en excédent qui persiste. En gros, c'est ces trois régions qui comptent. Alors, pourquoi c'est inquiétant? Déjà, parce que si on regarde, alors ces divergences, elles s'accroissent. Je dirais, la dernière fois qu'on était à peu près à ce niveau-là, c'était juste avant la crise de 2008. Et historiquement, ces épisodes de divergence, ils se résolvent par des crises. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a des flux de capitaux qui financent ces déficits, mais qui peuvent se retourner, ou qui peuvent financer la mauvaise chose. Typiquement, aux États-Unis, avant la crise de 2008, ils allaient vers les subprimes.
Les crédits hypothécaires auxquels plus personne ne comprenait.
Donc, ces flux de capitaux, ils peuvent se retourner et créer une crise financière.
Oui.
Ou par ailleurs, l'autre chose qu'on voit bien, c'est que ces déficits, ils alimentent pas mal de ressentiments, des tensions, du protectionnisme, parce que les pays en déficit, choisissent des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes à un problème qui est véritable. Donc, en fait, pour éviter que ça se résolve par une crise économique ou financière, qui est effectivement très efficace pour réduire les déséquilibres, mais à un coût économique très élevé, la question, c'est est-ce qu'on peut chercher une approche plus coopérative ? En fait, ces déséquilibres extérieurs, ils sont toujours le reflet d'un déséquilibre dans le modèle de croissance de chaque pays.
Ah.
En gros, en Chine, c'est un modèle de croissance qui est tourné à fond vers l'investissement, vers l'export, en réprimant la consommation. En Europe, on n'a pas assez d'investissement, pas assez de productivité par rapport à notre niveau d'épargne, donc on manque d'investissement, et c'est ça qui est à la source de notre excédent courant. pas français, mais européen. Et aux États-Unis, c'est un modèle de croissance, en gros, qui est alimenté par la surconsommation, la dette et le déficit budgétaire. Donc, si chaque pays rééquilibre un peu son propre modèle de croissance pour se rendre lui-même dans un modèle de croissance un peu plus stable et un peu plus soutenable, en fait, on gagne en stabilité mondiale. Alors évidemment, est-ce qu'on est prêt à faire pour le G7 des choses qu'on n'aurait pas faites pour nous ? Non. Mais si on écoute la rhétorique plus que la pratique côté américain, ils disent qu'ils sont très attentifs à leur situation budgétaire et qu'ils veulent réduire le déficit.
Pour la première fois, le déficit fédéral va dépasser les 100% du PIB aux États-Unis.
De la dette. En Europe, l'Allemagne réinvestit massivement. On investit dans la défense, etc. Donc on est sans doute ceux qui prennent le plus le chemin du rééquilibrage. Alors en Chine, c'est pareil. Si vous lisez le 15e plan quinquennal, ils disent la consommation est une priorité. Dans les faits, on n'y est pas. Ouais. Mais c'est une base de discussion. Et en fait, ne serait-ce que d'arriver à un point... Alors évidemment, la Chine n'est pas au G7, mais dans ce cadre, on discute avec la Chine. Si on arrive à un point où, je dirais, chaque zone reconnaît sa contribution, je dirais, à ce risque sur la stabilité mondiale et s'engage à mettre en œuvre des actions pour essayer de les réduire, il vaut mieux le faire de manière coordonnée, parce que si l'un agit et pas l'autre, on peut avoir des effets sur la demande mondiale ou des effets sur les taux d'intérêt qui vont rendre les choses plus coûteuses pour tout le monde. Donc en fait, on a tous intérêt à agir de manière coordonnée. Évidemment, on ne le fera pas juste pour le G7 si on n'y voit pas notre propre intérêt, ça n'existe pas. Mais ne serait-ce que d'avoir cette discussion, j'irais d'admettre que dans les trois grandes zones, on en est collectivement responsable et qu'on a tous intérêt à éviter que ça se résolve par une crise, et de trouver les moyens de le faire, c'est déjà un objectif certes ambitieux, mais important, y compris à relativement court terme.
Donc je résume, pour les Chinois, stimuler la demande intérieure, pour les Européens, investir sur le sol européen, et pour les États-Unis, rétablir un peu leur déficit. Je le disais, la dette américaine vient de passer les 100% du PIB américain, 1000 milliards de charges sur la dette payées chaque année. C'est des chiffres qui paraissent totalement délirants. Est-ce que on se dirige globalement vers une résorption de ces déséquilibres?
Malheureusement, je ne crois pas. C'est-à-dire que je suis parfaitement d'accord avec le diagnostic et c'est même sain d'essayer d'en parler. Mais les Américains, allez leur expliquer qu'ils consomment de trop, bon courage. Politiquement, c'est infaisable. Alors que la réalité, c'est qu'il y a un énorme problème de surconsommation du côté des ménages. La Chine, le vieux serpent de mer, c'est l'idée de dire qu'il faut stimuler la consommation, mais ils sont dans une logique où ils veulent dominer les technologies, donc la production. Et on peut les comprendre, parce que c'est aussi une arme de rétorsion. Alors maintenant, ça devient une grande puissance militaire, mais ça n'était pas le cas avant. Donc ils ont d'abord dominé, ou on va dire, ils ont assis leur domination sur une industrie sur laquelle ils peuvent faire pression sur l'ensemble des pays dans le reste du monde. Donc leur dire qu'il faut davantage consommer et relâcher une partie des contraintes qu'ils exercent sur le reste du monde via la production, j'y crois assez peu. Et même nous, au sein de la zone euro, ce qui, moi, me frappe, c'est qu'on n'est pas capable de dire aux Pays-Bas 10% d'excédent courant, c'est inadmissible, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça ne devrait pas pouvoir exister. Et pourtant, on le fait. Donc, même dans des pays qui, normalement...
Ça fait partie des déséquilibres macro internes à l'Europe, normalement. Et on peut aussi... La Commission pourrait...
Et surtout dans des pays qui, normalement, se ressemblent, se parlent, on devrait avoir une capacité à converger rapidement. On n'y arrive déjà pas au sein de la zone euro. Donc, je suis assez pessimiste sur... Et je comprends, moi, les intérêts de chaque pays. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que même les Pays-Bas n'ont pas du tout envie...
Chacun pour soi, finalement. Le règne des nations.
Bien sûr. Et puis, il vaut mieux être à la fin un pays qui a une position extérieure nette extraordinairement... prenez l'Allemagne, par exemple. C'est 80 points de PIB de position extérieure nette positive. Nous, on doit être à moins 30, moins 35. C'est sûr que quand vous êtes détenu par le reste du monde, vous êtes un peu vassalisé, en réalité. Et à l'inverse, quand vous détenez le reste du monde, vous avez une capacité d'agir, en tout cas, ou de faire
pression. Vous avez plus de pouvoir. C'est ce qu'il faisait dire à Jean-Marc Daniel ce matin, que les États-Unis étaient un pays du tiers-monde, en réalité, puisque c'est l'Europe qui détient Manhattan.
Ils ont d'autres moyens, d'autres leviers.
On est d'accord aussi, Nicolas Bouzou.
C'est très difficile, politiquement, évidemment, mais aussi concrètement, de résorber ces déséquilibres. Parti communiste chinois, ils sont parfaitement conscients des problèmes de surproduction. Ils l'ont parfaitement théorisé, c'est-à-dire que cette surproduction qui génère des baisses de prix, qui génère des baisses de marge, voire beaucoup d'entreprises. C'est très frappant, quand vous faites un peu de micro, vous regardez les très grandes entreprises chinoises qui nous impressionnent dans le numérique, dans l'automobile, etc. En fait, il y en a plein qui ne gagnent pas d'argent.
Ils sont pas profitables. Oui.
Parce que les prix sont très bas. Personne ne voudrait investir là-dedans avec nous, nos critères financiers d'investissement. Et alors ça, les Chinois, ils l'ont pas, le problème, il est parfaitement identifié. Simplement, comment faudrait-il faire en pratique ? Faudrait supprimer les subventions, enfin en tout cas les diminuer, c'est-à-dire assumer le fait qu'au fond, vous avez tout un tas d'entreprises qui vont disparaître. Alors intellectuellement, c'est parfait. Mais c'est exactement comme la résorption de la consommation aux États-Unis.
Oui,
on va mettre plein d'impôts sur la consommation.
Théorie.
Vous allez consommer moins parce que c'est bon pour vous. On va supprimer les subventions comme ça. Enfin, diminuer les subventions comme ça. Il y a plein d'entreprises qui vont disparaître et c'est formidable. Vous voyez que c'est pas c'est ça la solution technique. Mais c'est difficile, bon. Ces pays à présenter.
On a un peu du mal à avoir un point d'atterrissage, effectivement.
Non, là, vous prenez la face nord, c'est-à-dire que les États-Unis, dire on va diminuer la consommation, effectivement, c'est indicible. Dire que les États-Unis ont un problème de dette et de soutenabilité de la dette, et en fait, ils ont, d'ailleurs, si on reprend leurs annonces de l'année dernière, ils voulaient réduire drastiquement leur déficit.
Alors, c'était l'objectif aussi des tarifs douaniers.
Mais en tout cas, c'est un objectif à moyen terme qu'ils affichent, à défaut de prendre pour l'instant les actions qui sur la consommation ou de dire il faut un peu moins de dérégulation financière parce qu'il y a des risques financiers dans votre système. C'est indicible, ça je suis d'accord. Pour les Chinois, c'est pas indicible de parler de consommation. Dire réduire les subventions et laisser vos entreprises mourir et renoncer à dominer l'industrie mondiale, c'est plus compliqué. En revanche, ce qui plombe aussi la consommation chinoise, c'est le fait que la crise immobilière continue à traîner en longueur et n'est pas résorbée. À un moment, je dirais, nettoyer le bilan du secteur immobilier et redonner un peu de visibilité aux ménages là-dessus, investir davantage dans la santé et l'éducation, c'est aussi dissible. Donc en fait, c'est aussi là qu'il faut trouver les voies où on peut s'entendre, ne pas forcément partir sur les chiffons rouges de chaque pays, mais plutôt trouver les moyens qui sont entendables dans le contexte national, avec les contraintes nationales, économiques et politiques et sociales de chaque pays. Et c'est ça le travail en fait qu'on fait aussi, je dirais, à tous les niveaux pour essayer de trouver un chemin d'entente.
Il nous reste 30 secondes. Une dernière question, Dorothée, pour clôturer cette partie G7. Je répète ma question. Quelles seraient les trois réussites, les trois objectifs que vous considérez réussis en fin de G7, en fin d'année?
Alors, ce qui est difficile, je vais même pas répondre à la question en temps de seconde, parce que quelque part, ce qui sort des G7, en général, c'est des communiqués. Donc, on peut se dire, bon, c'est qu'un texte, mais ces communiqués...
Et là, on fait bouger des lignes
qui
aussi.
Sont ceux qui font bouger des lignes au niveau des ministres du Commerce, au niveau des ministres des Finances, et ensuite au niveau des chefs d'État, ce qui est le plus important. Et donc, ces communiqués montrent un peu là où on a avancé dans notre compréhension commune, dans notre diagnostic commun, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on demande aux organisations internationales de faire aussi. Ça donne des feuilles de route aux organisations internationales. Et donc, quelque part, il faut savoir lire le texte ensuite pour voir... les points sur lesquels on s'est entendu, typiquement sur le sujet dont je parlais, si on a que les trois zones reconnaissent leurs responsabilités dans les déséquilibres mondiaux et s'engagent à agir pour les réduire, en fait, de notre point de vue, ce sera un succès. On pourra se dire, c'est juste deux phrases, mais c'est une ligne qui bouge. De même, sur les sujets commerciaux, c'est une question de faire bouger des lignes et d'agir dans la même direction. Et en fait, ça donne une feuille de route pour la suite. Le prochain G7, le prochain G20, etc.
Et voilà. Et la montagne qui remonte des années, des semaines, des mois, une année de travail pour que ces quelques lignes puissent bouger. Et c'est très important. Merci à tous les trois. On vient dans une toute petite minute. On va revenir maintenant en France. La situation française, la lettre de François Villeroy de Galhau, la dernière au président de la République pour parler de l'état de l'économie française. Est-ce qu'il faut craindre une récession? Et puis on reviendra sur le débat du moment sur les pétroliers, les surprofits, évidemment, peut-être les taxes qui vont avec. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Notez bien le nouvel horaire des experts tous les jours, de 9h30 désormais à 10h30, toujours en direct, bien sûr, sur l'antenne de BFM Business. Il est 10h passé de 2 minutes et je suis toujours avec Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor, Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode, et Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès. On a beaucoup parlé relations internationales lors de la première partie de l'émission. On va revenir en France là avec la dernière lettre du gouverneur de la Banque de France au président de la République. C'est un exercice classique. Au printemps, le gouverneur fait un peu l'état de l'économie française et adresse aussi quelques conseils économiques, toujours, jamais politiques, bien sûr. Mais celle-ci prend une saveur particulière puisque c'est la dernière de François Villeroy de Galhau avant qu'il quitte l'institution financière. Ce sera au mois 2 juin. La grande question du moment, le grand sujet autour du débat économique, c'est récession ou stagflation. On a eu les résultats en fin de semaine dernière de l'INSEE. La croissance au premier trimestre, bah, c'est zéro. L'inflation au mois d'avril dépasse désormais les 2%. Alors, premier tour de table, Anthony, je commence avec vous. Est-ce qu'il faut craindre un retour de la stagflation ? Christine Lagarde a dit non la semaine dernière. La stagflation à la mode des années 70, on n'y est pas du tout. Faut-il alors craindre une récession ?
C'est toujours des mots qui font peur, stagflation. Est-ce qu'il y a plus d'inflation ou moins de croissance ? Oui. Ensuite, la question, c'est de se dire, quand on dit moins de croissance, est-ce que ça nous emmène dans le négatif ? Il est vrai, ça c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, c'est que l'économie française se porte pas très bien à l'entrée dans le conflit, ou en tout cas quand on va voir les pleins effets du choc.
C'est vrai que le premier trimestre c'était pour les deux tiers avant le début du conflit.
Exactement, ça c'est peut-être ce qui est le plus délicat, c'est-à-dire c'est que la conjoncture était quand même déjà dégradée. Maintenant, effectivement, si le conflit, on trouve pas d'issue très rapide, on va connaître des trimestres récessifs, probablement. Alors, pas forcément d'une ampleur déraisonnablement négative, mais quand même probablement récessive. Donc, ça peut être une récession technique. Pour l'instant, on voit bien sur l'ensemble de l'année, la prévision qui était de 0,9 du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt en centrale à 0,7, on va dire, quand on recale le T1.
Oui.
Donc, on est toujours dans le positif en moyenne annuelle, mais on sent bien qu'on perd des dixièmes de points de croissance, j'allais dire, mois après mois, à mesure qu'on voit les effets se propager. Donc, effectivement, il y a clairement un risque. Et ce qui est frappant, c'est de voir quand même que la demande interne française, elle est quand même relativement déprimée. On voit des ménages qui ont toujours aucune envie de consommer, qui ont un désir d'épargne toujours très fort, et des entreprises qui investissent toujours dans le numérique, parce que ça, c'est un petit peu la partie.
Oui, l'investissement, c'est pas si mal, hein, finalement.
Pas si mal pour la partie servicielle, mais pour tout ce qui est construction et bien d'équipement, pour les investissements capacitaires ou même de renouvellement, là, c'est quand même plutôt dégradé. Donc oui, une économie française qui est quand même sincèrement pas en forme, et il est complètement possible que dès le deuxième trimestre, ou a fortiori le troisième,
oui,
on connaisse un trimestre négatif. En tout cas, ce n'est pas exclu à ce stade, clairement.
Bon, le gouverneur de la Banque de France, lui, dit non, pas de récession.
Sur l'année,
je précise, lorsqu'on se projette à 3 ans aussi, donne un horizon un peu lointain. Sur l'année, le scénario bas serait à 0,3% de croissance seulement. On recevait ce matin dans la matinale, dans Good Morning Business, le patron de l'URSSAF, Damien Yantil, ex de Bercy. Écoutez ce qu'il nous disait, lui. Il n'est pas si pessimiste que ça sur l'économie française.
Quand on regarde nos chiffres conjoncturels donc collectés par les URSSAF, taux d'impayés, délai, on est encore dans une bonne résilience de l'économie. Donc ça, c'est plutôt assez rassurant. En revanche, il est clair que dans certains secteurs et pour certaines entreprises, on a besoin d'accompagnement. Une des mesures d'accompagnement, c'est, comme vous le dites, l'étalement de cotisations sociales. Quand on regarde au mois d'avril, on a 30 000 délais qui ont été accordés, ce qui est un chiffre équivalent à ce qu'on a pu observer en avril 2025. En revanche, quand on regarde certains secteurs, comme le secteur des transports, par exemple, ou encore de l'hébergement touristique, ou le secteur des infirmières, là, on a une hausse un peu plus marquée du nombre de demandes de délais.
Voilà, donc pour l'instant, on voit que cette crise, elle impacte certains secteurs, évidemment. Hein. On n'est pas surpris que dans le transport, ce soit un peu compliqué. Mais globalement, les impayés sont à peu près au même niveau que l'année dernière. Donc, l'économie tourne, finalement.
Oui, je pense que c'est un peu ce qu'on voit alors dans les chiffres du premier trimestre, aussi dans ce que dit le gouverneur dans sa lettre. C'est-à-dire, il y a un trou d'air, indéniablement, et c'est normal vu la crise qu'on a. Ensuite, je trouve que agiter les mots récession, stagflation, pour l'instant, c'est un peu prématuré.
On fait peur.
Ça agite le spectre des années 70. Alors, dans la Banque de France, comme beaucoup de prévisionnistes aujourd'hui, elle fait 3 scénarios. Le scénario central, défavorable, très défavorable. Son scénario très défavorable, c'est 0,3% de croissance et 3,3% d'inflation. Encore une fois, on n'est pas en croissance négative, on n'est pas en inflation à 2 chiffres. Alors, c'est un scénario qui est mauvais économiquement, mais qui n'est pas catastrophique. On peut imaginer pire, hein, évidemment, si la crise dure encore, s'amplifie, etc. Mais je dirais, aujourd'hui, en gardant la situation telle qu'elle est, on a un trou d'air, on a une inflation qui remonte, mais on a l'avantage de partir de très bas. Donc finalement, on remonte autour
plus bas que le reste de.
On remonte autour de 2% hein. Aujourd'hui. Ouais. On va sans doute passer, ça va continuer à augmenter un peu, mais on n'est pas dans des niveaux d'inflation même qu'on a connus en 2022-2023. On est encore assez loin. On a évidemment des secteurs qui sont très touchés. C'est une crise qui est d'abord sectorielle aujourd'hui. Les secteurs qui sont très dépendants du pétrole, du gaz, donc les secteurs énergo-intensifs. Et quelque part, ça rejoint l'autre partie du diagnostic conjoncturel de François Villeroy de Galhau, qui est de dire il faut garder une réponse qui est ciblée sur les secteurs qui sont vraiment en difficulté. Donc aider les secteurs qui en ont besoin, mais garder, je dirais, la mesure dans la réponse en termes de ciblage. Voilà, mais je ne serai pas aujourd'hui catastrophiste parce que, je dirais, quand le pire scénario que la Banque de France imagine aujourd'hui, ça reste une croissance positive et une inflation à 3%, on n'est pas dans un choc généralisé. Ensuite, il faut surveiller si ça se diffuse à d'autres secteurs, si l'inflation se généralise au-delà. Je dirais, dans les chiffres du premier trimestre, il y a eu des facteurs négatifs, effectivement, l'investissement dans la construction. La consommation, alors du côté de la consommation, il faut faire un peu attention. Là, il y a la consommation d'énergie qui baisse, par exemple, mais juste parce qu'il a fait chaud en février. Par contre, la consommation alimentaire baisse aussi. Ça, c'est un signe qui peut être un peu plus inquiétant. Donc, il faut un peu regarder ces signaux-là pour voir si le choc se diffuse davantage que, je dirais, le périmètre énergie stricto sensu.
La consommation de services se porte plutôt bien. Ouais. La consommation des biens a rebondi de 0,7 au mois de mars aussi. Donc, c'est compliqué à voir. La grande question, Nicolas, c'est évidemment combien de temps va durer ce conflit. Combien de temps les prix à la pompe vont rester au-dessus des 2 euros, j'imagine.
Oui, mais ça, on n'en sait rien.
Eh oui.
On n'en sait rien, puisque la grande nouveauté, en fait, de ces 4 dernières années, c'est que l'économie est soumise à des chocs géopolitiques, en fait.
Ce qu'il dit, le gouverneur, c'est qu'on vit dans un monde de permacrise.
Les difficultés économiques auxquelles on fait face ne sont plus endogènes. Ouais. Elles l'étaient, quand on a commencé notre carrière. La crise de 2008, c'est une crise financière, puis bancaire, puis économie réelle, etc. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, la question, c'est quand est-ce que les bateaux vont repasser dans le détroit d'Ormuz. Donc, c'est absolument exogène à l'économie. Et en plus, radicalement imprévisible au sens le plus fort du terme. Donc, stagflation, non. Parce que stagflation, ça veut dire qu'on a une inflation qui dure, qui s'auto-entretient, etc. Donc, ça, non. Récession, on sait rien. Récession, si le détroit d'Ormuz reste fermé 2 ans, oui, récession. Hein. Au bout d'un moment, ça va être difficile de faire des sacs poubelles sans le pétrole qui vient de là-bas. Donc, vous voyez. En revanche, deux remarques. Première remarque, une difficulté à laquelle quand même il faudrait qu'on réfléchisse un peu en profondeur, surtout au vu des échéances électorales, c'est que la nouveauté de cette crise, c'est qu'on n'a pas véritablement les moyens de mettre en place des dispositifs de soutien un peu conséquents comme on l'avait fait lors de l'invasion de l'Ukraine ou
en 2022,
lors du Covid. Ce que fait le gouvernement, moi je trouve ça parfait. Il radine et il donne un peu d'argent aux pêcheurs, aux agriculteurs, aux grands routiers. Je soutiens à fond, c'est parfait parce que je considère que faire plus, ce serait finalement ajouter d'une certaine façon un risque de crise financière à une crise géopolitique. Donc, c'est pas une bonne idée. Mais enfin, c'est quand même un problème sur lequel il faut qu'on se pose 3 secondes. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il me semble que dans les analyses économiques qu'on fait, on loupe un peu quelque chose. Et moi, je le vois dans ma pratique professionnelle en termes d'impact sur les secteurs. C'est le fait que on a changé de monde en termes de taux d'intérêt. Il y a 4 ans, les taux d'intérêt, ils étaient à 0.
Oui.
Aujourd'hui, ils sont à 4%. On va gentiment vers 4%. On n'y est pas, mais grosso modo.
On attend 7% ce matin aux États-Unis.
Alors certes, l'inflation n'est pas la même, donc les taux réels ne sont pas... OK. Mais déjà, les entreprises, elles sont plutôt sensibles aux taux nominaux, en fait, plus qu'aux taux réels. Et surtout, je trouve qu'on sous-estime à quel point, pour certains secteurs, c'est un changement de monde. Je vous donner un exemple extrêmement concret. Prenez la promotion immobilière aujourd'hui. Promotion immobilière, moi, les promoteurs, je leur parle, ils me disent, on a un problème, on est coincé. Parce que, en fait, la différence entre nos coûts de structure, après tous les efforts qu'on peut faire, et ce que les ménages peuvent mettre aujourd'hui, il y a 10 points de différence.
Ah oui.
Là, on avec est coincé.
Avec le coût des matériaux qui vont flamber au mois de juin et les hausses de prix qui montent.
Là, on est complètement coincé. Donc, je trouve que ce changement très macro, en fait, ce retour à la normale, parce que 4% de taux à 10 ans, c'est pas...
C'est
une espèce de logique. C'est le prix du temps à 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais on a tellement vécu avec des taux d'intérêt qui étaient nuls que ce changement de monde en 4 ans, c'est pas très long finalement. Je pense que sur certains secteurs, par exemple en termes de défaillance, il y a beaucoup de défaillance en France, vous le savez, en termes de défaillance d'entreprises, dans des secteurs qui sont très intensifs en capital, dans lesquels les entreprises sont endettées, ou alors dans des secteurs comme l'immobilier, qui sont très liés au niveau de taux d'intérêt. Je pense que c'est un facteur absolument majeur.
Et oui, 70 000 défaillances l'année dernière, je le rappelle.
Et on sent que ça souffle dans certains
Anthony.
Secteurs. Je pense à l'industrie, ça c'est des secteurs avec lesquels on parle beaucoup, et notamment les énergo-intensifs. Ce qui est triste, c'est qu'ils prennent au fond un second coup de semonce alors qu'ils ne sont toujours pas remis de 2022. La plupart des industries énergo-intensives, elles ont des niveaux de production qui sont 10 à 15% sous les niveaux qu'elles avaient début 2022. Donc elles partent affaiblies avec des niveaux souvent de trésorerie et des tensions sur le bilan de manière générale plus fortes. Et donc même si le choc qu'on connaît aujourd'hui peut être éventuellement moins fort que ce qu'on avait eu en 2022, elles sont dans une situation où elles sont beaucoup plus fragiles et précaires. Et donc on le voit bien, vous prenez l'agence de garantie des salaires par exemple, sur le premier trimestre,
les AGS,
dans l'industrie, ça fait très mal. Donc il y a quand même des faut être vigilant sur certains secteurs qui malheureusement sont déjà fragilisés et souffrent encore davantage. Donc en plus c'est une crise qui est très hétérogène et discrimine beaucoup au fond entre secteurs.
Bon, est-ce que dit le gouverneur pour terminer aussi ? C'est intéressant, il prend un peu de recul, il donne de la hauteur de vue et il regarde la France ces 15 dernières années pour nous comparer aux performances des autres pays européens. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que économiquement, finalement, on est plutôt dans la moyenne. Finalement, ça va pas si mal que ça. Finalement, le pouvoir d'achat, la progression du pouvoir d'achat des Français, préoccupation numéro un des Français aujourd'hui, est dans la moyenne de ce qui a été fait ailleurs en
ça
Europe.
Ça, c'est pas du tout cet argument de François Villeroy de Gallo, parce que sincèrement, quand vous avez la même croissance que la moyenne européenne, mais que vous avez bazardé les finances publiques avec donc du soutien permanent en réalité.
Oui.
C'est pas la même chose. Vous prenez, prenez le début des années 2000. Quand on fait la zone euro, on a 60% de taux d'endettement public comme l'Allemagne.
Oui.
L'Allemagne aujourd'hui un peu au-dessus de 60, on est à 115. Bon, entre les deux, la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne peut se permettre des plans de relance absolument gigantesques, peut soutenir la demande pendant des années. On n'a plus un rond. Donc, c'est quand même pas la même chose. Quand vous faites le bilan, faut pas regarder que la croissance, mais comment vous avez généré la croissance. Et sincèrement.
Alors, c'est vrai qu'il souligne, le côté des finances publiques catastrophiques. Sans faire le lien forcément.
Oui, mais à la fin, ça joue. Et même le modèle économique tel quel, on a perdu beaucoup d'industries dans la bataille. On a un modèle qui, alors on a fait émerger des services plutôt à haute valeur ajoutée, ça c'est très bien, mais on a quand même plutôt une dérégulation, ou en tout cas une déformation qui va pas dans le bon sens du modèle économique français, avec un modèle social en plus qui est pas soutenable dans la durée. Donc j'ai beaucoup de mal à trouver qu'au fond, on a une performance moyenne. Je trouve qu'on a plutôt sous-performé malheureusement sur les 25 dernières années.
Qu'est-ce que vous retenez, Dorothée, de cette lettre ?
Non, moi je pense que c'est intéressant justement ce qui pointe les points forts et les points faibles en comparaison européenne. Que la croissance est effectivement dans la moyenne, en gros, alors bien inférieure à celle des États-Unis, mais ça c'est plutôt un problème européen. Un problème français.
Moitié moins.
Sachant qu'au sein de la zone euro, il y a aussi des pays qui sont plus en rattrapage, donc c'est normal qu'il y ait aussi des pays qui sont moins riches que nous et qui croissent plus vite. Donc être dans la moyenne, c'est à peu près normal. Sur l'emploi, on a plutôt... alors on partait plus loin.
C'est la grande victoire des 15 dernières années, dit François Villeroy de Gallo.
Le taux de chômage a nettement baissé, le taux d'emploi a nettement progressé. Sur l'inflation, on le disait tout à l'heure, on a plutôt été plus bas que les autres et ça nous a permis de gagner en compétitivité. En revanche, sur la compétitivité hors prix, le type de spécialisation, le positionnement de gamme, on n'y est pas encore et c'est pour ça que cette compétitivité prix, elle se retrouve pas dans nos parts de marché. Et après, évidemment, ce qui est intéressant, alors je le dirais un peu différemment, mais c'est, il nous dit finalement, en termes de pouvoir d'achat, on n'est pas moins bien lotis que les autres en termes de croissance du pouvoir d'achat. En revanche, ce pouvoir d'achat, il a été un peu acheté par les finances publiques. Et donc, quelque part, c'est normal qu'à l'avenir, on fasse plus d'efforts sur les finances publiques et que la priorité absolue ne soit peut-être pas le pouvoir d'achat, mais également, je dirais, utiliser nos finances publiques, avec des marges amoindries pour soutenir l'investissement, la compétitivité qui vont nous faire la croissance de demain, qui sont aussi l'investissement, l'industrie, la compétitivité, l'éducation et peut-être moins que l'extension du modèle social qui a été davantage le cas des 15 dernières années.
Oui, et notamment en faveur des plus âgés. Ce qu'il nous dit aussi, François Villeroy de Gallo, je le cite, « Si notre pays poursuit des choix gérontocratiques, il ne pourra pas bien préparer l'avenir. » De quoi il parle là ?
Il parle de cette thématique du conflit de génération là, qui est en train de prendre en France. Mais moi, j'aime pas qu'on parle comme ça, en fait. J'aime pas qu'on parle comme ça, parce que je pense que notre pays, il est très divisé, que le débat public en ce moment, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, avec des invectives dans tous les sens. Et je comprends bien évidemment ce qu'il veut dire. Il fait allusion au fait que on n'a pas désindexé les retraites sur l'inflation, qu'il y a un certain nombre de choix budgétaires qui profitent plus à ceux qui sont inactifs, et en particulier retraités, plutôt qu'à l'éducation ou à l'enseignement supérieur. Donc je comprends, c'est très documenté ce qu'il dit. Mais j'aime pas qu'on s'exprime comme ça, parce que je pense que notre pays
ça nourrit la guerre,
absolument pas besoin, voilà. Et je déteste cette idée qui consiste à opposer les salariés aux retraités. Voilà. Alors bien évidemment que nos retraites, quand vous regardez la part de la dépense publique qui est prise par les retraites, c'est un sujet.
Hier, on célébrait le jour de libération des actifs.
Oui, mais moi j'aime
vous conseille pour dire que du 2 janvier au 4 mai, on paye uniquement, on travaille uniquement pour financer la retraite.
Oui, d'accord, mais enfin le jour de libération, vous pouvez le faire sur tout. Hein, vous pouvez faire le jour de libération de tout ce que vous voulez. Vous avez le jour de libération par rapport à la fiscalité, le jour de libération, etc. Donc, mais juste la question des retraites, il a raison, hein, François Viard-Gallo, hein, le sujet, il est massif. Mais si nos parlementaires ont trouvé intelligent de mettre en pause la réforme des retraites, c'est pas la faute des retraités, hein, et ils avaient rien demandé.
Absolument.
Et ça, pour moi, c'est vraiment une erreur de politique économique absolument gigantesque et qu'on va payer ces prochaines années. C'est pour ça que cette idée de conflit entre générations, je suis pas sûr qu'elle ait des débouchés en termes politiques qui servent l'intérêt général.
Et dans un silence assourdissant, parce que ce que dit François Villeroy-de-Gallo, en creux, en tout cas tel que je le comprends, c'est pas uniquement le sujet des retraites dont on discute abondamment ici, oui, mais c'est aussi qu'on a bazardé notre système éducatif sur les 25 dernières années.
Accessoirement.
Et que ça, on le mesure très mal, mais c'est criminel de faire ça. Oui. Enfin, un pays à long terme, il converge vers son score PISA. Hein. Enfin, c'est quand même à peu près ça. Et c'est terrible, parce que là, on voit bien qu'on a quand même sous-investi massivement, qu'on a 10 000 problèmes sur lesquels je vais parvenir. Mais ça, cette thématique de l'éducation dans le futur, elle doit être absolument au cœur des réflexions. C'est vrai que le débat public passe complètement à côté des sujets de formation, d'éducation. Et ça, c'est quand même terrible. Enfin, je veux dire, là-dessus, on a un vrai sujet.
Rex Ecole, je voulais qu'on en touche un mot justement dans cette perspective du débat public. Évidemment, la campagne a débuté, on a un an de la présidentielle. Vous lancez une initiative avec le quotidien L'Opinion dans le cadre de cette campagne. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste.
Tout à fait, Raphaël. Bah, juste après, on va parler de la taxation des surprofits. Bah, c'est typiquement pour éviter ce genre d'ineptie qu'on lance une initiative avec L'Opinion, consistant à dire, on voit bien que l'entreprise qui pourtant est remplie de solutions, on travaille avec elle tous les jours, c'est elle qui propose quand même les solutions pour justement garantir un avenir à la fois prospère et où tout le monde s'y retrouve. C'est vraiment elle qui les porte, ces solutions-là. Et elles sont la variable d'ajustement aujourd'hui de quasiment tous les choix parce qu'elles ne votent pas et que leur voix est peu entendue. Et ce qui nous frappe aussi, c'est que l'entreprise aujourd'hui est probablement le seul acteur qui est crédible dans le débat public. Moins que le politique, il n'arrive plus du tout à être audible. Et c'est aujourd'hui dans l'entreprise que les salariés, en tout cas, s'estiment le plus heureux, ou a fortiori le moins malheureux. On peut le voir un peu comme on veut. Et donc, on a décidé de lancer cette initiative où tous les mois, on aura un rendez-vous avec les dirigeants, avec les communicants, les leaders d'opinion, pour les aider, tous ceux qui veulent s'exprimer, prendre la parole dans le débat, de manière à éviter que les slogans, que la démagogie prospère, parce qu'on le voit bien dans les programmes politiques, et peu importe d'où ils viennent, la plupart sont mal bouclés, reposent sur des recettes fantaisistes, donc c'est remettre un peu de rationalité dans le débat économique et faire en sorte que l'entreprise redevienne quand même un sujet sur lequel, en réalité, il faut s'appuyer sur l'entreprise et non pas en faire une variable d'ajustement. Donc on le lance en juin et ça nous portera jusqu'à l'élection présidentielle et même bien au-delà.
Et avec des chefs d'entreprise qui s'engagent de plus en plus. Hein, on a beaucoup de mouvements qui sont en train d'émerger.
Non.
Ah, pas d'accord, Nicolas.
Non, pas assez. Ah non, assez. Je trouve, moi, je suis très... Mais vraiment, je salue. C'est formidable, hein, cette initiative. Hein, je salue à fond. Je trouve que les chefs d'entreprise, ils arrivent en général à la fin de la bataille, dans tous les débats.
Mais c'est
sur la taxe Zucman. Non, mais j'espère que ça va changer, parce que moi, je suis du côté des entreprises, mais enfin, parfois, avec quelques amis, Olivier Babot et autres, on se dit, on se sent un peu seul, hein, quand même, hein, face à l'attaque Zucman. On sait quand même, on n'était pas très nombreux à se battre. Et moi, je pense que c'est bien aussi si ce sont les dirigeants d'entreprise eux-mêmes, comme vous voulez le faire, qui explique les enjeux, qui explique pourquoi on a besoin d'actionnaires, pourquoi les dividendes, c'est pas la fin du monde, pourquoi il faut des profits, pourquoi quand on fait des super profits, éventuellement ça peut faire des super investissements et des super embauches. Donc moi, les super profits, je trouve ça super, justement. Je rêverais que toutes les entreprises en fassent. Je trouverais ça génial, vous voyez. Mais ça, bon, nous on le dit, c'est bien. Mais non, je pense que les chefs d'entreprise, parce que c'est un peu facile de dire Oui, mais faut, nous, on veut pas s'exposer, on a peur, etc. Et après, de constater que le Parlement, bah, finalement, tout ce qu'il trouve à faire pour boucler le budget, c'est les taxes sur les entreprises. Bah oui. Mais faut aller un peu au combat médiatique.
Mais il faut reconnaître que très souvent, quand elles ont pris la parole, ça peut leur attirer des ennuis. Et parfois, c'est difficilement gérable. Enfin, il y a plus de coûts que de gains. C'est en train de changer. Je pense que voilà, faut que tout le monde porte cette initiative. Nous, on va prendre notre part. On va augmenter le niveau d'engagement. Bravo. Et c'est vraiment nécessaire en vue de 2027. Et même après, probablement, parce que 2027 ne sera pas la fin de l'histoire, loin de là.
Très certainement. Alors, c'est sur profit, justement, Dorothée Rouzet. On en parle en ce moment du côté des pétroliers, bien sûr. Hier, Emmanuel Macron a durci le ton contre les compagnies pétrolières. Les Européens devront réagir si des profits excessifs ou des comportements prédateurs étaient constatés. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui très factuellement, très sobrement, du côté des marges des pétroliers et des distributeurs? Ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Est-ce qu'il y a des excès?
Alors, je vais pas caractériser ce qui est un excès ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, bon, d'abord, il faut voir que c'est quand même une situation qui est mouvante. Et il y a différents types de marges, je dirais, entre le pétrole extrait et le pétrole à la pompe, et le carburant à la pompe. Il y a sur la partie extraction, je dirais évidemment que les marges des pétroliers, enfin les profits des pétroliers augmentent sur la partie extraction. Ça coûte toujours autant d'extraire un litre de pétrole. Si le prix augmente mécaniquement,
à 120 dollars, c'est le prix du marché.
Après, ce profit-là, il n'est pas en France, hein, puisque c'est pas chez nous qu'on extrait le pétrole. Donc les vérités, je dirais, de le taxer ne marcheront pas. Ensuite, il y a les marges de raffinage et les marges de distribution. Alors les marges de raffinage, elles fluctuent. Elles n'ont pas, dans ce qu'on observe, particulièrement augmenté depuis le début de la crise en Iran. En revanche, si on compare à avant 2022, elles ne sont pas revenues non plus à leur niveau. Enfin, elles sont toujours supérieures au niveau qu'elles avaient avant 2022.
Oui.
Normal, anormal, j'en sais rien. Et de même pour les marges de distribution, elles ont augmenté assez fortement, en fait, mais sur les 10 dernières années. Mais elles n'ont pas particulièrement augmenté sur les deux derniers mois. Donc là encore, qu'est-ce qu'on caractérise comme normal, anormal, je sais pas. Évidemment, localement, je dirais, il y a des distributeurs qui peuvent abuser. Ça, c'est un peu le rôle de la DGCCRF, oui, le rôle des contrôles, de voir si localement certaines
stations abusent. Et de la juste concurrence,
abusent,
on a envie de dire, parce que ça se régule par soi-même.
Après,
tout ça.
Je dirais, ça dépend, parce que je dirais la concurrence, quand vous êtes en ville et qu'il y a une station-service tous les 200 mètres, ça marche assez facilement.
Oui.
Quand vous êtes à un endroit où il y en a une à 50 km à la ronde, évidemment, vous allez plus difficilement aller en chercher une autre parce qu'elle est moins chère. Mais malgré tout, je dirais il peut y avoir des pratiques isolées, mais au niveau agrégé aujourd'hui, sur les marges de distribution, on n'a pas particulièrement constaté.
Pas d'excès constaté.
Mais ça reste un point de vigilance important parce que c'est quand même important pour les consommateurs et évidemment un point sensible politiquement.
Sujet très politique, peut-être beaucoup plus politique qu'économique. En 2022, fin 2022, on parlait de la CRIM à l'époque, la contribution sur les rentes inframarginales. Ce débat, on l'a déjà eu sur les surprofits au sortir de la crise, Anthony Morlet-Lavidali. Cette CRIM, elle devait rapporter 12 milliards au départ. Ça a fini à 300 millions de recettes au final.
Oui, complètement. Alors déjà, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et deuxièmement, c'est effrayant de voir ce débat revenir parce que ça montre, encore une fois, qu'on n'est pas du tout rationnel dans le débat économique. Quand on est un pays importateur net d'hydrocarbures, donc on n'en produit pas sur le sol ou que très marginalement, par définition, en fait, la nation perd du pouvoir d'achat. On fait une facture au reste du monde et a fortiori les producteurs d'hydrocarbures, et a fortiori les États-Unis aujourd'hui. À partir de là, il n'y a pas de trésor caché en France. Alors après, on peut toujours se battre en essayant de se dire, mais il n'y a pas on perd juste tout le monde. Alors les finances publiques, malheureusement, vont être impactées par la situation. Les entreprises, certaines vont probablement avoir des problèmes de marge très rapidement. Les ménages vont perdre en pouvoir d'achat. Tout le monde va prendre sa paume. Après, question, c'est comment on se répartit la facture. Mais il ne faudrait pas laisser imaginer qu'il y a un trésor je ne sais où.
Et y compris du côté de l'État, c'est quelque chose qui circule beaucoup.
Oui, mais c'est complètement faux. Tout le monde va y perdre dans cette affaire.
L'État est profiteur. Oui, en 20 secondes, Nicolas, un dernier mot là-dessus.
De toute façon, c'est atavique en France. On voit des profits, on voit qu'ils augmentent, on veut tout de suite les taxer, pousser la réflexion beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà. Je veux dire, là, c'est toute la question de la pédagogie économique, en effet, qu'on doit faire. Total Energy, je peux en parler librement, ils font pas partie de mes clients, mais Total Energy, par exemple, c'est une boîte qui investit, quand vous regardez les rapports annuels, entre 3 et 5 milliards d'euros par an dans les énergies bas carbone.
ça peut servir à ça. J'espère qu'ils le fassent et même aussi. S'ils fassent plus. Hein, donc s'ils font des super profits pour faire des super investissements bas carbone, bravo et merci. Hein.
Bravo et merci. Voilà le mot de la fin. Merci à tous les trois aussi pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay. Tout de suite, c'est BFM Entreprise Leadership animé par Sandra Gondouin. Quant à nous, on se retrouve 9h30 dorénavant, 9h30, 10h30 en direct sur BFM Business. Bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.